What's up, y'all? Kelly Clarkson with Wayfair. My favorite thing about the holidays? Decking out my whole house. It's not a competition, but if it was, well, I'd win the season with Wayfair. Outdoor inflatable Santa? Got it on Wayfair. Trees, lights, and ornaments? Wayfair. Hosting must-haves like dining sets, beds, sheets, and towels? Wayfair. For everything in your style delivered with fast and free shipping, visit Wayfair.com or the Wayfair app to win the season. But again, it's not a competition.
Wayfair, every style, every home.
Hello tout le monde! Aujourd'hui, on aimerait vous parler de la nouvelle exposition au Pointe-à-Calière, Sherlock Holmes, mener l'enquête. C'est officiellement ouvert et vous pouvez aller la voir maintenant jusqu'au 8 mars.
Oui! Et on a justement eu la chance d'assister à la visite de presse. Et je vous dis, c'est vraiment plus qu'une exposition. C'est une immersion complète dans le Londres du 19e siècle.
Pendant notre visite, on a appris plein de choses sur Sir Arthur Conan Doyle, l'auteur de Sherlock Holmes, puis on a même vu des objets authentiques des années 1880 qui lui ont réellement appartenu comme son vrai bureau sur lequel il a écrit encore taché d'encre.
Il y avait aussi une section super intéressante sur les débuts de l'enquête policière à Montréal. Et j'ai même vu une pipe à opium du temps où les policiers bustaient les fumeries. Assez surprenant. Et pour finir cette belle expérience, Jennifer et moi, on a résolu un crime en suivant des indices comme Sherlock Holmes et Dr. Watson. C'est vraiment cool et super interactif.
On vous recommande fortement d'y aller. Sérieusement, c'était une date exceptionnelle pour Colin et moi. On a vraiment aimé ça. Vous pouvez acheter vos billets dès maintenant. J'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Bonne écoute, tout le monde!
Bienvenue à notre podcast Côté sombre. Je m'appelle Jennifer.
Et je suis Colin.
Je vous parle de crime.
Et je fais mon possible.
Hello!
Bonsoir, Jennifer. Comment ça va?
Ça va full bien. J'ai acheté des billets aujourd'hui pour un show en juin, puis je suis full énervée.
Quel show?
Ha! Je t'avais pas dit.
Non.
It's a girl's night. C'est Spirit Box, puis Evanescence, puis Poppy.
Spirit Box.
Oh, Spirit Box. Comment ça va, toi?
Ça va bien, ça va bien. J'ai travaillé à la magasin de musique aujourd'hui, puis il y avait un couple de gens qui m'ont vraiment fait chier.
Oh, le service à la clientèle.
Oh, tu sais, je fais mon possible de les aider. Mes intentions sont bonnes. Je sais c'est quoi le problème. Mais... pour n'importe quelle fucking raison, prends pas mon avis.
Ils comprennent pas.
Ils comprennent pas. Ils obstinent. Ils donnent l'impression qu'ils pensent que je suis un crosseur. Je suis comme, OK, bro, j'ai essayé, mais fucking chie-moi dessus. OK, ciao, bye. Mange-marde. Ça, c'est
okay,
ça.
OK, ciao, bye, mange-marde.
Mais, you know, I don't know. You can't help everybody.
Non, mais le service à la clientèle, c'est tough dans le temps de Noël aussi. Là.
Il y en a des gens. Je peux pas comprendre comment tu peux comme naviguer la vie en un état éternel de trou de pétage. I don't get it. I don't know.
Sur ces belles paroles, t'es-tu prêt?
No!
Bon, ben moi, je suis prête. Faut y aller. C'est quelque chose, l'histoire d'aujourd'hui.
Yeah! Tu as mentionné que c'était épicé, celle-là, mais tu m'as pas donné plus d'indices que ça.
Prêt, pas prêt? J'y vais. Si je te dis The Clash, Depeche Mode, Eurythmics, à quoi tu penses?
British Rock.
Ah! Il est bon, mais plus spécialement les années 80.
OK.
United Kingdom, hein, au Royaume-Uni.
Que j'aime The Clash. The Clash sont fucking excellents. My God, qu'ils sont bons.
Plus précisément, aujourd'hui, on s'en va ensemble.
Ensemble.
Plus précisément, aujourd'hui, on s'en va ensemble à Londres. Alors, c'est pas la première fois qu'on se rend à Londres ensemble, mais cette fois-ci, comme je viens de vous le mentionner, on doit penser à Londres des années 1980. C'est plutôt rare que je fais des histoires plus vieilles aussi. D'habitude, je suis dans les récits, les histoires plus récentes, mais là, cette histoire-là m'a vraiment, mais vraiment marquée. Il y en a beaucoup qui doivent la connaître. Moi, je la connaissais pas. Puis toi, je suis pas mal sûr que tu la connaissais pas non plus.
De mes propres recherches, comme je voulais savoir c'est quoi, je connais comme cette histoire. Non, incluant les histoires que j'ai comptées à
sept. C'est un chiffre assez précis. En tout cas, on va en reparler. Londres des années 80, c'était toute une vibe. Hein? Une ville, une ville grise, tout le temps gris. Londres, là, un peu rough. Brixton, les grèves ouvrières, full punk, les inégalités sociales, l'anarchie, c'est ça que j'allais dire. Il y avait des tueurs en série à la tonne encore dans ces années-là, en voilà quelques-uns du Royaume-Uni uniquement. Mm-hmm. The Yorkshire Ripper, il a fait plus de 20 victimes. Robert Black, c'est un pédo en plus, moins 4 victimes. Trevor Joseph Hardy, plus vers la fin des années 70, mais il a fait au moins 3 victimes. C'est ça, dans ces années-là, c'était plus facile de s'en sortir en faisant plusieurs meurtres. Hein? Mm-hmm. Je nommerai pas son nom tout de suite parce que c'est pas ce que je veux qu'on retienne immédiatement. Bailey Sarian l'a appelé The Stinky Serial Killer, puis j'aime vraiment ça, puis je trouve que ça nous ressemble. Genre, on aurait pu trouver ce nickname-là nous autres-mêmes.
The Stinky Serial Killer.
Fait que pendant un bon bout, on va juste l'appeler l'homme qui pue.
Mais c'est puant.
Puis évidemment, je vais vous expliquer pourquoi au courant de l'histoire. En fait, j'aurais même pas besoin de vous expliquer pourquoi. Ça va venir... Vous allez y penser, vous autres aussi. L'homme qui pue.
Asti que j'aime pas les hommes qui puent.
Maintenant que j'ai teinté votre jugement puis que je sais que vous allez vous rappeler de lui comme étant l'homme qui pue, je peux vous dévoiler son nom.
All right. Who's this stinky son of a gun?
Dennis Nilsen.
Who the fuck is stinky Dennis Nilsen? Dis-moi tout.
Oh my God, tu veux pas tout savoir, mais évidemment que je veux tout.
La mot de la journée dans la groupe Facebook, c'est « frappe-moi donc avec les informations ».
Ah, je sais, j'adore. Hey, merci à la personne qui fait ça.
Ari.
Alors, Dennis est né en 1945, direct après la guerre, en Écosse. Il est le deuxième d'une famille de trois. Le père était absent, à un point tel que la mère a demandé le divorce en 1948. Puis dans ces années-là, c'était assez rare, en fait très, très rare, que les gens se divorçaient.
C'était tellement tabou.
Dennis a donc grandi avec sa mère, ses frères et sœurs et ses grands-parents. D'ailleurs, le grand-papa de Dennis était son meilleur ami. Il l'adorait. Puis quand j'étais jeune, en tout cas, moi, pas que je vais me comparer à un serial killer, mais moi, quand j'étais jeune, mon grand-père, là, la joke dans la famille, c'était que c'était mon jouet préféré. Je voulais tout le temps jouer avec lui.
Oh, yeah. Mon grand-père aussi. J'avais une connexion spéciale avec mon grand-père.
Un grand-papa.
Oh. Shout out, nice grandpas.
Alors, je pense pas mal que c'était le cas pour Dennis aussi. Là. Il a vraiment pris beaucoup de place dans sa vie.
Okay.
Son grand-père, c'est un pêcheur, une job assez dangereuse qui lui demandait de partir pendant un bon moment, assez souvent. Malheureusement, il est mort au travail, mais de toutes les manières qu'on peut imaginer un pêcheur mourir, son grand-père, il est décédé d'une crise cardiaque. Fait que ça n'a même pas rapport avec tous les dangers qu'il y a sur le bateau.
Oh, I mean, mais considère les modes alternatifs de mourir comme pêcheur. Je pense que crise cardiaque, c'est un des meilleurs.
Le corps du grand-père a donc été renvoyé à la maison dans un cercueil en bois pour les funérailles. Mais la mère de Dennis a eu une étrange réaction. Elle dit à son fils « Hey, ton grand-père est revenu du travail, mais il dort. » Fait que là, elle a demandé à Dennis s'il voulait le voir. Dennis a répondu « Ben oui. » Mais quand il est arrivé dans la cuisine, il a vu son grand-père mort dans un cercueil. C'est, je veux dire, ça l'a évidemment profondément traumatisé avec raison.
Hell yeah.
Ça excuse pas. Qu'il va faire plus tard. Mais bon. Je ne vais pas m'étendre sur sa vie, mais c'est important à mentionner dans l'histoire. En entrevue, sa mère va dire plus tard, elle dit « Je comprends pas pourquoi il est devenu comme ça. Je l'ai pourtant élevé comme les autres et j'étais douce. » Puis Dennis, il va plutôt dire le contraire, qu'elle était une mère froide comme de la glace ice cold.
Really?
Dès l'âge de 9 ans, Dennis avait des sentiments pour des garçons de sa classe.
Mmh.
Malheureusement, à cette époque-là, dans les années 80,
oh yeah.
Être homosexuel, c'était une raison pour t'envoyer en prison si t'étais adulte.
No way!
Il croyait donc que c'était mal. Il savait que c'était pas bien. Ben, pas bien, entre guillemets, perçu. On s'entend, on se comprend, là, dans les années 80, là, là-bas, yeah, là, yeah, yeah. Dans ce temps-là.
Mais s'il y a une peine de prison attachée à quelque chose, c'est facile pour un enfant de comprendre que c'est pas bien.
Ben, c'est pas juste que c'est pas bien. Il y avait des documentaires à la télévision qui expliquaient à quel point c'était des petits satans, les homosexualités, yeah. Je veux dire.
Puis c'était une insulte aussi.
Fait que là, il croyait que c'était mal, puis il se sentait à l'écart, il se sentait différent, il se sentait incompris. Bref, vous comprenez le topo. Dennis va grandir, puis il va devenir un homme profondément instable. Pour rester poli, on va dire instable, OK?
OK.
On restera pas poli longtemps, par contre. Adulte, il est devenu un homme solitaire, socialement bizarre. Il avait de la difficulté à regarder les gens dans les yeux. Il s'intéressait pas vraiment aux autres non plus. Il les trouvait plutôt ennuyants. Il s'est enrôlé dans l'armée, puis il a servi pendant 11 ans.
Dang.
En 72, il a décidé que c'en était assez. Il est donc retourné vivre chez sa mère, qui à ce point-là avait un chum. Un soir, alors que la famille écoutait un documentaire sur, justement, comme je te parlais tantôt, les homosexuels.
Oh yeah?
La famille avait des commentaires vraiment négatifs à dire. Puis Dennis était le seul à défendre les droits des homosexuels, bien qu'il n'ait jamais dit ouvertement qu'il était gay. Puis aussi, sa mère, elle disait souvent des commentaires du genre « Ah, quand est-ce que tu allais... Quand est-ce que tu vas trouver une blonde, là? Quand est-ce que tu vas trouver une petite blonde, là?
Mm-hmm, » ouais. Mm-hmm.
Fait que c'est ça. Il n'est pas resté longtemps chez sa mère après ça. Il a décidé qu'il déménageait à Londres.
OK.
Puis là, il a commencé à travailler comme un policier.
Really?
Après ça, il a commencé à fréquenter les bars gays. On s'entend qu'à cette époque-là, au Royaume-Uni, puis même partout dans le monde, en fait, c'était pas le genre d'endroit que tu retrouvais partout, des bars gays. C'était pas dans des petites places, des petites villes. C'était vraiment... dans les centres-villes comme Londres, en tout cas au Royaume-Uni, que tu pouvais trouver des bars gays. C'était nouveau pour lui. Puis il a commencé à boire, puis sa boisson de choix, c'était le rhum Bacardi.
Ugh. OK.
Moi, c'était la boisson de choix de ma grand-mère aussi.
Oh, yeah? Mm-hmm. Oh, yeah. But she like Bacardi white rum. She...
oui, oui, oui.
Yeah.
Un petit peu de glace, un petit peu de Bacardi white rum, puis de l'eau.
That's powerful. Respect.
Puis de l'eau, tu sais, du frigo, là, que tu...
ice cold,
même pas
baby.
De l'eau pétillante, là.
Ice cold, baby. Mm. That's wild.
C'était le drink à ma grand-mère. Alors, un soir, Dennis croise un jeune garçon dans un pub. L'adolescent, là, quand je dis jeune garçon, c'est un adolescent.
Really? Dans un pub?
L'adolescent est vulnérable, puis Nilsson lui offre d'aller manger quelque chose chez lui. Il est vulnérable, il est jeune... en tout cas, on va en reparler.
Mm-hmm.
Une fois dans l'appartement, on ne sait pas trop ce qui s'est produit, mais le jeune s'est réveillé tout nu, puis il a vu que Dennis s'en venait l'attaquer. Il a donc sauté par la fenêtre.
My God, il est sur quel étage?
Assez haut pour être transporté à l'hôpital, puis il a reçu une centaine de points de suture.
No way! Ouch!
Dennis a été interrogé, puis il a simplement dit, ben, je sais pas pourquoi il est sauté par la fenêtre. J'ai rien fait. Si vous avez pas de preuves contre moi, vous pouvez pas m'arrêter puis vous devez me laisser partir.
Mais là, I know il y a pas de preuves concrètes, mais on a le témoignage du ado qui dit je suis réveillé chez lui, tout nu, puis avancé vers moi pour m'attaquer. Peut-être bite à l'air. Who knows? I don't know. I wasn't there. Mais c'est assez... stressant, puis ça fait peur assez qu'il saute de la fenêtre. Peut-être une réponse raisonnable pour un policier, c'est de dire « Hmm, oui, ça a l'air louche. On va investiguer ce monsieur-là. »
C'est des années 80. Les policiers sont corrompus. Tu te rappelles pas du Jeffrey Dahmer? Yeah, mettons, c'est une affaire de...
Il voulait même pas rentrer chez lui parce qu'il va attraper la gay.
Genre?
Non, c'est crazy.
En plus, Dennis, il dit que, ben non, il a pas fait ça.
Oh my God.
Puis là, il s'est avéré que le jeune homme était aussi porté disparu. Puis quand les autorités ont découvert son identité, ils ont appelé les parents, ils ont essayé de convaincre les parents de poursuivre Dennis, mais les parents étaient comme « on se mêle pas de ça, on veut pas aller dans un procès pour des affaires de gays. »
C'est fou comment c'était tabou.
Ah, ça a aucun bon sens. Ça fait pas si longtemps que ça, les années 80. C'est ça qui est terrible.
J'étais né dans les années 80. Christ de vieux!
Sorry.
Non, c'est fucking... Mais come on, c'est pas... Ça fait pas longtemps. Non. Pas en tout. C'est fou.
Alors, à l'époque, en plus, la notion d'agression sexuelle commise par un homme sur un garçon, c'est un sujet tabou, ce que tu viens de dire. Ouf. Beaucoup de familles préféraient étouffer l'affaire plutôt que d'affronter le système judiciaire. Dennis Nielsen s'en sort complètement indemne. Pas d'accusation, pas de dossier criminel, rien pour le stopper.
No way. Ah, c'est ça, il veut même pas comme poursuivre ça pour pas que les voisins connaissent leur affaire puis le vie personnelle de ces personnes-là, mais c'est comme... Ouf! C'est tough parce qu'il y a beaucoup de prédateurs qui vont juste fucking... C'est comme un fucking Disney World pour prédateurs, là.
Mm-hmm.
The Catholic Church is like, celebrate good times, come on!
En novembre 75, Dennis rencontre un homme nommé David Galichan. Je le dis pas comme il faut, on va dire Galichan.
Sure.
Ce dernier vient d'arriver à Londres, il est sur le chômage, il vit temporairement dans une auberge et il est homosexuel.
Mm.
Et le lendemain matin, les deux décident de déménager ensemble.
Ça, c'est vite. C'est mais son nom de famille, c'est Galichan.
Appelons-le comme ça.
OK. C'est un Galichan.
C'est là que Dennis trouve un logement au 195 Melrose Avenue. Oh boy, cette adresse-là. Au début, ça se passe plutôt bien entre les deux. Ils vivaient leur petite vie tranquille, mais l'affaire, c'est que Dennis voulait surtout être écouté, pas écouter les autres. Dennis était aussi vraiment souvent en train de filmer. Okay, il y a beaucoup d'enregistrements de Dennis là, qui fait des longs monologues, puis il aimait ça s'entendre parler. Puis tu le vois, ces vidéos, à quel point il est difficile à endurer. Il est bête avec David. Tu l'entends souvent dire « Where's my bloody tea? » Tu sais, genre... À un moment donné, on peut l'entendre dire super bête. Ben ça, puis il fait aussi, comme je te dis, il fait aussi beaucoup de monologues sur tout puis sur rien. Puis il aime ça, s'écouter parler.
Mmh.
C'est lourd.
Mmh. C'est extrêmement lourd.
Ça a pris moins d'un an avant que la relation commence à déraper. Les chicanes deviennent de plus en plus fréquentes. Chacun d'entre eux rapportait d'autres hommes à la maison. En 77, David s'en va. Dennis se retrouve seul, il plonge dans le travail, il boit en écoutant de la musique le soir. Il fait une vie pas mal monotone et triste, puis il continue de s'enregistrer.
Oh yeah? Oh boy.
Le 30 décembre 78, Dennis va commettre son premier meurtre. Il va ramener un jeune homme mineur, Stephen Holmes, qui ne sera pas identifié tout de suite. C'est juste en 2005 qu'il va être identifié, Stephen Holmes.
No way.
Ouais. Il rapporte chez lui après une soirée au bar. Le bar, c'est le Cricklewood Arms Pub. Cricklewood Arms Pub.
OK.
Le jeune homme a essayé d'acheter de l'alcool, mais il n'a pas réussi. Voyant la scène, Dennis est allé le voir. Il dit « Hey, gars, viens chez nous. J'ai de l'alcool, j'ai un toit, puis... j'ai de la bouffe.
Mm-hmm. »
Les deux ont bu jusque s'endormir. Puis le lendemain matin, Dennis a étranglé le jeune homme avec une cravate.
Wow!
Puis ensuite, il a mis sa tête dans un seau d'eau pour être certain de le tuer.
Oh, doux Jésus! Ah, oh, ça, c'est rough.
Ça, ça va devenir sa marque de commerce.
Oh, yeah?
Mm-hmm.
Oh, my God!
Bon, Dennis, il a écrit un livre... dans lequel il se confesse, c'est sûr qu'il faut en prendre puis en laisser, évidemment. Toutes ces excuses bidons de pourquoi il est devenu comme ça, j'ai pas été capable de lire le livre parce que je suis comme, c'est pas vrai que je vais lire un livre écrit par le tueur.
No way.
Sauf que dedans, il raconte bien les affaires qu'il a faites que tu te dis, ben, ça l'aiderait pas de mentir là-dessus. Fait que, bref, que c'est comme ça que les informations ont pu être données.
Mm-hmm.
Bon, comme je dis, il faut en prendre puis en laisser. Évidemment, il dit qu'il a tué le jeune homme parce qu'il voulait pas être toute seule pour le nouvel an.
So, il va passer le nouvel an avec un cadavre. C'est pas mieux.
Ah, écoute ça.
Oh, Jennifer.
It's way better. Un cadavre, ça parle pas puis ça écoute.
Oh, this is spooky.
Ça répond pas.
Oh, c'est spooky. This guy's a narcissist fois mille avec ses petites vidéos puis veut quelqu'un là qui parle pas, qui écoute. Yo! Mm-mm.
Après no, l'avoir merci. Tué, Dennis a mis le corps de Stephen dans le bain pour le laver. Il l'a ensuite habillé. Il a vécu avec lui pendant plusieurs jours dans la maison en faisant des activités genre il plaçait le cadavre devant la télé.
Wash.
Assis sur le divan à côté de lui.
Wash, wash.
Il lui parlait. Comme je dis, c'était parfait pour lui. L'autre, il répondait pas.
Ah, ça va pas bien dans le coconut, man.
Il soupait avec lui le soir. Il assoyait le corps de Stephen, là.
Uh-huh.
Il l'assoyait à la table, puis il mangeait avec lui.
Oh, ça, c'est fucked up.
Il couchait dans le même lit que le cadavre avec à côté, là. Il mettait la petite couverte dessus.
Oh, non. Couche-moi.
Puis tu sais, quand je dis plusieurs jours...
Frisson.
Plusieurs jours, là.
Ah, est-ce qu'on parle des semaines, Jennifer?
Non, mais je veux juste dire que ça prend pas de temps avant que ça commence à puer un cadavre.
Non. C'est ça.
L'homme qui pue. Il vivait avec le cadavre.
Puis dans ce temps-là, air climatisé,
Ben là, c'est Londres, puis c'est l'hiver, fait qu'il fait frais tant
que ça. OK.
Mais quand même. Aussi... Dennis Nielsen présentait un nécrofétichisme marqué.
Nécrofétichisme? Jennifer!
Il y a une différence entre nécrophilie et nécrofétichisme. Donc, ça, c'est de l'attirance, fantasme envers les morts.
Wesh!
Il aimait se masturber sur les cadavres.
Oh! Jennifer! Information non nécessaire.
C'est pas certain s'il est carrément passé à l'acte, nécrophilie, mais...
Oh, je la doute pas.
Ben, c'est ça, moi aussi, je suis comme elle. Tu sais, il l'a pas dit dans son livre parce que ça l'arrange pas, mais
no.
Il a dû essayer.
Stinky Dennis? Oh, yeah.
Il a dû essayer. Voyons.
Oh, Dennis qui sent le vieux pénis. Non, c'est dégueulasse. C'est wesh.
Hey, Dennis, il savait qu'il aimait les cadavres, là, avant même d'en avoir vu pour vrai. Parce que avant, là, qu'il commence à tuer, là, il pouvait. C'est quoi de talc powder?
Talcum powder, yeah.
Mais c'est quoi ça? C'est de la poudre à bébé, genre?
Yes, mais okay. C'est plus... Le poudre à bébé, c'est plus fait avec ça. Maintenant, c'est le amidon de maïs parce que le talcum powder n'était pas safe pour les enfants.
OK. Fait qu'avant, là, yeah. Il lui arrivait de se mettre plein de poudre sur le corps, là, puis ça le rendait tout blanc. Puis là, il se regardait dans le miroir, puis ça l'excitait parce qu'il ressemblait d'un cadavre.
Ah! Oh! Est-ce que c'est pour ça qu'il sent mauvais parce qu'il passe tout son temps avec des fucking cadavres chez lui? Ben, oh, Jennifer!
Alors, c'est ça. Il aimait les cadavres. Puis pour revenir au gars qu'il a tué, là, un moment donné, après une couple de jours, c'est ça, ça. Il commençait à avoir des petites bébites, là. Fait que.
Wesh!
C'est ce qu'il a mis?
No.
Sous les lattes de son plancher. Il a levé le bois du plancher, là. Foutu le cadavre, là. Problème réglé.
Non, problème pas réglé!
Imagine l'odeur dans la maison. Après, c'est sans parler des verres, des bibites qui montent partout et qui sortent entre les cracks.
Ça va attirer des rats, Chris.
Ah, il mettait du spray sur le plancher, il mettait des sambons, mais c'est pas ça qui va camoufler l'odeur de la mort.
Non.
Surtout quand c'est pas le seul cadavre qu'il va avoir en dessous du plancher, laisse-moi te dire ça.
Oh, Jennifer!
L'homme qui pue.
Oh, c'est sûr qu'il pue. Il pue la mort. Urgh.
C'est sûr qu'il sentait la mort.
Sans doute!
C'est sûr qu'il puait. Ses voisins se plaignaient de l'odeur. Ses voisins se plaignaient des bibites. Oui, c'est ça.
Oh, imagine that. Maggots coming up through your fucking floorboards.
Mais c'est pour ça aussi qu'à un moment donné, ben, les voisins, ils continuaient de se plaindre parce que ça puait trop. Fait que Dennis, il a décidé d'aller faire un gros feu dans sa cour arrière. Okay, c'était le seul du building qui avait accès à la cour. Pour ceux qui se demandent, les Français qui nous écoutent, là, qui disent, c'est quoi une cour arrière? C'est un jardin. Okay, donc, il avait accès à sa cour arrière. Lui, il était au rez-de-chaussée. Il mettait les cadavres en dessous du plancher. Puis là, un moment donné, ben, il y avait trop de plaintes. Ça puait, il y avait des bébites. Fait que, il a commencé à disséquer le corps un petit peu. Il a enlevé des morceaux. Puis le reste, il est allé le brûler dans sa cour en arrière avec un gros pneu, genre. Puis il a enterré ça dans sa cour. Le 11 octobre 1979, 10 mois après son premier meurtre, l'homme qui pue rencontre un étudiant originaire de Hong Kong, Andrew Ho, dans un pub sur St. Martin's Lane. Il l'attire chez lui puis promet une petite aventure salace.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr que ça va tourner au cauchemar, là.
Mm-hmm.
Dennis, il essaye de l'étrangler. Heureusement, Andrew, il a réussi à se sauver puis il va direct à la police pour tout
Hell
rapporter.
Yeah, Andrew. Let's go!
Dennis est interrogé, mais comme Andrew décide finalement de ne pas porter plainte, l'affaire tombe à l'eau.
Ça fait plusieurs fois que Dennis glisse entre les cracks, là, puis... Mm-hmm. Imagine toutes les personnes qui peuvent être sauvées. OK, continue.
Le 3 décembre 1979, Dennis fait la rencontre d'un étudiant canadien de 23 ans qui s'appelle Kenneth O'Kenden dans un pub du West End. Le gars est en road trip en Angleterre pour visiter sa famille. Ils jasent, ils boivent, tout est vraiment relax. Quand Dennis apprend que Kenneth est un touriste et lui propose de lui faire un tour de Londres, Kenneth, il trouve ça vraiment nice, il accepte. Après ça, Dennis, il dit « Ben, viens-t'en chez nous, on va manger un morceau puis on va continuer à boire. » Sur le chemin, il passe à acheter du whisky, du rhum puis de la bière.
Quelle sélection!
Dennis a fini sa soirée en étranglant Kenneth avec les fils d'écouteurs que l'homme avait pour écouter de la musique. Fait qu'il écoutait de la musique, là.
Uh-huh.
Puis il a pris le fil puis il l'a étouffé, il l'a étranglé. Il l'a traîné par terre, le fil toujours serré là, jusque dans son cou jusqu'à ce qu'il arrête de bouger.
Mm-hmm.
Puis après ça, comme si rien n'était, il s'est servi un petit verre de rhum, il s'est installé, puis il a continué d'écouter la musique avec les mêmes écouteurs qui venaient de se servir pour l'étrangler.
Oh my God! Ah, le dude a aucun remords. C'est fou, ça! I don't like it!
Le lendemain, Dennis s'achète un Polaroid puis commence à prendre des photos du corps placées dans des positions franchement assez troublantes. Déjà, c'est un corps. C'est déjà troublant. Il étend Kenneth, les bras, les jambes écartés sur lui dans le lit puis il passe des heures à regarder la télé avec le cadavre sur lui.
Oh, Jennifer! Oh my God! I can't believe this is real! Je peux pas croire que ça, c'est vrai. C'est dégueulasse.
Ouais, je te le raconte puis je suis comme... Je suis pas sûre que je catch à 100%.
No! Oh, Jennifer, j'ai... Ça, c'est spécialement troublant. Tu sais,
il y a du monde c'est côté fucké son. Dans la vie, hein?
Yeah! I mean, je sais, c'est côté sombre. Puis on parle des choses, là. Mais ça, c'est une autre affaire.
Ensuite, il emballe le corps dans des sacs en plastique puis glisse ça où? Sous le plancher! Puis c'est pas fini, là. Au cours des semaines qui suivent, Dennis ressort le cadavre plusieurs fois.
Mm-hmm.
Il l'assoit dans le fauteuil du salon, juste à côté de lui.
Oh.
Il boit, il écoute la télé. Kenneth, il est mort depuis des jours.
Oh.
Il lui tient compagnie. Comme si le fait qu'il l'ait tué, ça avait jamais mis fin à leur soirée, genre. Le 17 mai 1980, Dennis va tuer sa troisième victime, Martin Duffy, âgé de 16 ans. Le jeune homme avait fait de l'autostop jusqu'à Londres à l'insu de ses parents. Pendant 4 jours, Martin avait dormi à la Belle Étoile. Il était épuisé, il était affamé.
C'est quoi autostop? C'est hitchhiking?
Yeah.
OK.
Il a fait du pouce, là.
Yeah.
Quand Dennis l'a croisé, par hasard, il a profité de sa situation vulnérable pour lui offrir un toit puis de la nourriture.
Mm-hmm.
Martin était plus qu'heureux, il a accepté. Une fois chez Dennis, oui, il mange, oui, il est au chaud, mais oui, il se fait étrangler pendant qu'il dort.
Oh.
Dennis s'assoit même sur sa poitrine puis continue de tirer très fort là, sur la corde ou la cravate qu'il avait là, pour être certain qu'il l'étrangle comme il faut. Il traîne ensuite le corps dans sa cuisine puis le noie dans son évier avant de prendre un bain avec le corps.
Oh, c'est tellement fucked up.
Je sais.
Oh, Jennifer. Oh.
Il met ensuite le corps dans son lit. Il l'embrasse, le caresse.
Oh, oh.
Lui murmure des compliments.
Oh, c'est sûr qu'il est nécrophiliaque, là. Oh.
Puis il se masturbe en étant assis sur son ventre.
Ah!
Ugh. Urk.
Ah, Jennifer!
Pendant des jours, il garde le corps caché dans un placard, mais quand il voit que ça commence à gonfler, ben, il le fout sous le plancher. L'homme qui pue. En une autre année, il va tuer plus que 5 autres hommes de la même manière. Toujours des jeunes garçons vulnérables, n'ayant pas de famille, que personne cherche. En tout, dans son appartement sur Melrose Avenue, il va tuer environ 12 personnes.
Tout Jésus, ses pauvres voisins aussi, my God. C'est toujours le même pattern.
Ouais.
Oh, yeah, je suis Monsieur Nice Guy, viens chez moi, on va manger, on va boire. 10 minutes plus tard.
Éventuellement, il a dû faire un autre gros feu dans sa cour parce qu'il y avait pas mal de cadavres en dessous de son plancher. Il a disséqué les corps. En passant, il y a un petit détail que j'ai oublié de vous dire tantôt. Quand il était dans l'armée, il a appris la boucherie.
OK.
Of course que ça lui est utile pour ouvrir les corps maintenant.
Très utile.
Bon. Il va parfois enterrer des organes, d'autres fois juste les sacrer à la poubelle. Il va brûler le reste des corps avec des pneus pour camoufler l'odeur. Aussi, il avait l'habitude de faire bouillir les têtes, les pieds et les mains parce que c'est plus facile de se débarrasser de la chair ainsi, puis le crâne peut être plus facile à fracasser, peut-être plus subtil lors de l'enterrement. Puis là, je trouve ça vraiment plate de connaître ce détail-là.
Yucky! Encore bouillir des têtes.
Oui.
Tout le temps avec des bouillies de têtes. Mm. Aïe, 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 Jennifer. Oh, tu me dis des choses. Mm. Oh boy. OK. Oh, puis les voisins encore. Brûler un pneu, ça sent la merde, ça. C'est terrible.
Brûler un cadavre.
I know. Un versus l'autre, mais come on, man.
En 81, le propriétaire de la place veut reprendre possession de son logement pour rénovation. Fait qu'il donne un bon montant d'argent à Dennis pour qu'il déménage. Fait que là, Dennis, il est comme « Faut que je finisse de disséquer tous les corps qui me restent sur le plancher, puis faut que je fasse un gros dernier feu, là. Faut que je me débarrasse de ça, faut que je parte. » 12 corps, 3 gros feux, 2 ans.
Tous ces pauvres jeunes hommes.
Ouais.
Oh, Dennis!
Que personne cherche.
No, that's it.
Pourquoi? Parce qu'ils sont homosexuels.
C'est pas juste.
Que c'est ça?
C'est fou wild.
Dennis déménage donc dans un tout petit appartement sur Cranley Garden. Il habite plus au rez-de-chaussée maintenant. Il y a des voisins en bas.
Mm-hmm.
Fini le bon vieux temps, il pouvait dissimuler des cadavres en pleine décomposition sous les lattes de son plancher.
Wesh!
Il peut plus faire ça. Il y a plus de cour arrière.
Mieux. Mais plus. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant?
Ben, c'est ça!
Créativité!
Ces nouvelles contraintes-là vont mettre un stop sur les meurtres pendant quelques temps. Il continue tout de même à accueillir des gars chez lui. Il commence à en étrangler un à un moment donné, mais il arrête. Fini. Je peux pas de plancher.
Sur quoi? Il est comme... Just kidding! Just kidding! Jokey jokes! Pardon!
Oupsie!
Mes mains sont glissées!
En mars 1982, Dennis rencontre John Howlett, 23 ans, dans un pub. Évidemment, ils rencontrent tous dans un pub.
Mm-hmm.
Les deux commencent à connaître la chanson, là, pardon. Il rencontre un
jeune homme dans un pub. Il dit « Hey, viens chez nous, on va manger, on va boire. » Hop, 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 etc., etc.
C'est ça.
Cadavre.
Ben, exactement ça. Une fois dans l'appart, ils mettent un film, continuent à boire. John finit par s'endormir dans le lit de Dennis, dans la pièce principale. Dennis reste là, assis au bord du lit, un verre de rhum à la main. Il fixe John.
Mm-hmm.
Puis il décide, bah, moi le tuer.
Surprise!
Je sais pas où je vais le mettre, mais je vais le tuer.
OK.
Mais là, l'affaire, c'est que John, il se laisse pas faire. Ça dégénère en une grosse bagarre. John se débat. Il tente même de l'étrangler en retour.
Hell yeah, John.
Dennis parvient à passer une sangle autour de son cou, puis il a tiré, puis John a perdu connaissance.
No way.
Ouais. Complètement secoué en pensant qu'il allait perdre le combat, il va s'asseoir un moment au salon pour reprendre son souffle. Puis quand il revient, John respire encore. Fait que Dennis remplit la baignoire, puis le noie. Il faisait tout le temps ça.
C'est lourd.
En mai de 1982, Dennis, il rencontre Carl Stutter, 21 ans, au Black Cap, un autre bar. Le jeune homme se confie, il vit une peine d'amour, il est pas bien. Dennis, il joue le rôle d'un gars sympathique, empathique, il l'écoute, le fait boire, puis il l'invite chez lui. En précisant qu'il dit « Je veux rien de sexuel, viens juste chez nous, on va juste relaxer, je vais t'écouter. Yeah, » Une fois right. là-bas, Carl continue de boire, s'endort dans un sac de couchage, puis se réveille avec Dennis en train de l'étrangler, lui murmurant à son oreille « Bouge pas. »
Oh, c'est fucked up, Jennifer!
Pour une raison qu'on ignore, Dennis a décidé de lui faire le bouche-à-bouche puis de le réanimer. Il l'avait même placé dans un bain pour le noyer puis tout, mais il a changé d'idée.
T'es-tu sérieuse?
Ouais.
OK.
Fait que ce gars-là, il est parti.
No way. Il a réussi à lui réanimer.
Ouais.
Puis il est comme, OK, bye-bye.
Mais c'est plus compliqué que ça, là. Je vais pas m'étendre là-dessus. Mais
c'est sûr.
Le gars, il est même resté encore 3-4 jours parce que Dennis, il lui a dit... Son excuse bidon, c'était genre, ah, t'as été pris dans le sleeping bag, t'as été pogné dedans. Fait que là, t'étais en train de t'étouffer avec les sleeping bags. Fait que là, je t'ai sorti. Puis... Bref, il a sorti une histoire bidon, puis l'autre, il l'a cru, il se rappelait pas de tout non plus, mais éventuellement, il y a eu des petites... en tout cas, il s'en est rappelé, c'est plus compliqué que ça.
What the fuck, Jennifer?
Bon.
Oh, OK.
Sa prochaine victime, il va la garder pendant plusieurs jours dans son bain avant de la disséquer. Mm-hmm. Mais là, c'est ça, tu sais, il y en a-tu un autre? Puis ça, il y a personne qui me dit, mais Jennifer, what the fuck? Où est-ce qu'il met ses cadavres cette fois-ci?
Je veux même pas savoir. Je suis dégoûté au max.
Il les découpe et les place dans des sacs. Cool. Il met quelques sacs sous le lavabo, de la salle de bain, d'autres sacs dans le garde-robe. Puis ça traîne là pendant des mois et des mois.
Non! Des mois et des mois, des sacs de personnes. Urgh.
L'homme qui pue.
Oh, il pue fort, là.
Les organes, il les découpe le plus petit qu'il peut puis il les flush dans la toilette.
No way!
Le 8 février 83, suite à plusieurs plaintes de voisins pour des tuyaux bouchés, il y a un plombier qui est appelé. Le plombier se rend compte que tout est bel et bien bouché par des morceaux qu'il ne sait pas trop comment décrire. Puis en allant chez Dennis, Dennis, il dit « Eh ben oui, qu'est-ce que c'est ça? On dirait que quelqu'un a flushé du PFK. »
Stop it.
Te niaise pas.
Dennis!
Le plombier dit « J'ai bien trop de job, je peux pas faire ça en 5 minutes, là, je veux que je revienne demain. » Fait qu'il revient le lendemain, puis là, il va découvrir, un moment donné, il est comme « Si, c'est de la chair puis des os, ça.
Mm-hmm. »
Fait que là, il appelle la police.
Mm-hmm.
Dennis, il avait tout découpé ça, puis ça fait plusieurs cadavres qu'il tue, là, puis qu'il découpe, puis je veux dire, juste un organe, ça ferait, c'est assez pour boucher des tuyaux, mais là, c'est plusieurs organes de plusieurs corps.
J'ai déjà écouté un appel 911. D'un cas où c'était un plombier qui a trouvé des restants humains.
C'est une histoire que je t'ai racontée.
Oh yeah?
Qui se passait en Ontario.
C'est ça.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est moi qui te l'ai fait écouter.
Ugh.
Je suis fière.
Ugh.
Bon. Comme le tout là, partait d'en haut, genre tout bloqué à partir d'en haut de chez Dennis, ben on sait que c'est lui qui crisse les affaires dans les tuyaux.
Mm-hmm.
Les policiers vont aller lui payer une petite visite à notre Dennis, puis... L'affaire ici, c'est que son arrestation est plate. Elle n'est pas digne des films d'Hollywood. Mais on aime ça que ça se soit réglé de même. Dennis, au début, il fait semblant de ne pas comprendre pourquoi les policiers étaient là. Ce à quoi un des policiers répond, « Ben, il semblerait qu'il y a quelqu'un qui a flushé des restes humains.
Yeah. »
Puis aussi, la suspicion des policiers a vraiment augmenté en rentrant dans l'appart. L'odeur, toi, ça sentait... C'était, ben imagine, plusieurs cadavres découpés, cachés. Là. C'était dégueulasse.
Non,
okay?
C'est ça.
Fait que là, Dennis, quand il entend le policier dire ça, il dit « Oh mon Dieu, c'est terrible. » Puis là, il y a un des policiers qui dit semi-sérieux puis bluffant, là, « Arrête de faire semblant, où est le reste du corps? » Puis là, Dennis, il a tout de suite répondu « Un peu en dessous du lavabo. »
Un peu en dessous du lavabo, puis un peu dans la garde-robe, un peu sur le comptoir. Un peu en dessous de mon lit.
Un peu dans la toilette.
Oh.
Ouais. Dennis, il est menotté puis il est placé dans le véhicule de police. Pendant leur route à la station, il y a deux policiers. Il y en a un qui conduit puis il y en a un à côté. Mm-hmm. Il y a un des deux policiers qui demande à Dennis est-ce qu'il s'agit des restes d'un corps ou deux corps?
Puis Dennis, il dit...
Plutôt 15-16.
Oh, Jennifer! That's crazy!
Fait que là, le policier qui conduit, il a vraiment de la misère à conduire à partir de maintenant. Là. Fait que l'autre à côté, il dit « Arrête de regarder, là, avance, concentre-toi. »
Yeah.
15-16 depuis le début. Tu sais, genre là, Dennis,
depuis le début. OK, pas ça, juste c'est dans pas. Cet OK. Parce que j'aurais demandé, mais il y a combien de victimes totales? C'est comme 40, 50?
15, 16.
D'où Jésus, Jennifer? C'est assez.
Londres, c'est pas super grand. Comment 15 personnes auraient pu disparaître sans que personne ne s'en aperçoive? C'est ça qui a été la logique des policiers. Ben oui, sauf que justement, dans ce temps-là, si tout le monde était tellement homophobe, of course, qu'il y a personne qui les cherchait. Puis les policiers, c'était de leur faute aussi, parce que si quelqu'un allait les voir avec un problème d'homosexuel, non, je me mêle pas de ça. Tu sais, je veux dire, come on, là.
Bro, this is so crazy.
Personne qui était pas, personne de gay, là, osait aller leur parler de leur...
Il n'y avait pas de droit.
Non, c'est ça. Essentiellement,
c'est fucked up.
Mais là, il n'allait pas en prison pour ça, mais c'était quand même, ça faisait pas longtemps, là.
Non, non. Puis c'était encore très tabou, mal vu dans la société en général.
Dans l'appartement, ils ont trouvé un sac qui contenait deux torses disséqués.
Pouf.
Dont l'un avait été disséqué verticalement, puis un autre sac contenant des organes internes.
Urgh.
Le deuxième sac contenait un crâne humain, presque entièrement dépourvu de chair, une tête coupée et un torse avec les bras encore attachés, mais pas de main. Il y avait aussi une boîte en bois, un tea chest.
Cool.
Pleine de parties, pleine d'organes.
Oh.
Il y a une équipe de police qui a été déployée dans la cour de son ancien appart sur Melrose, puis ils ont trouvé tellement de petits ossements, genre il y en avait partout. Quand son arrestation a eu lieu, certains hommes qui ont survécu après avoir passé une nuit chez Dennis sont allés voir les policiers, dont lui qui s'est réveillé dans le bain que je vous ai mentionné tantôt. Puis c'était pas facile d'être dans le spotlight dans ces temps-là quand t'étais un homme qui aimait les hommes. Comme on en parle depuis tantôt, c'était pas quelque chose qu'il souhaitait que les autres sachent. Malheureusement. Certains d'entre eux sont quand même... aller témoigner en cours. Le but, c'était de prouver que les meurtres étaient prémédités pour ne pas qu'ils puissent mettre ça sur le dos de l'aliénation mentale, parce que Dennis, il va plaider non coupable.
Fuck you, Dennis.
Ouais.
Fait que tu es très coupable.
Fait que le gars là, qui a dit oui, il avait, c'est comme s'il avait tout prévu. Là, il m'a dit que mon sleeping bag m'avait... En tout cas, c'est comme s'il avait déjà... comme s'il avait déjà pensé à ce qui allait se passer, tu sais. Fait que... son procès a eu lieu en 83. La défense tente de plaider diminution de responsabilité liée à la santé mentale. Dennis se présente comme un homme solitaire dominé par des pulsions. Puis la poursuite affirme qu'il était parfaitement conscient puis méthodique. Dennis Nielsen, l'homme qui pue, admet avoir tué 15 hommes et d'avoir tenté d'en tuer 8 autres. En cours, ils peuvent que prouver 6 meurtres et 2 tentatives. Mais c'est assez pour lui donner la prison à vie.
Ah, j'espère.
Il a été reconnu coupable. Plusieurs morceaux de corps sont restés non identifiés. Il est mort en prison en 2018.
Tant mieux.
Mais tu sais, ça fait pas longtemps qu'il est mort quand tu penses à ça.
Non.
Voici le nom des victimes qu'on connaît aujourd'hui. Stephen Dean Holmes, Kenneth James O'Kenden, Martin Brendan Duffy. Le premier avait 14 ans, le deuxième 23, le troisième 16.
Yo.
William David Sutherland, 26, Malcolm Stanley Barlow, 23, John Peter Howlett, 23, Archibald Graham Allen, 27, Stephen Neil Sinclair, 20. Il y en a au moins 7 autres qui ne sont pas identifiés.
D'où Jésus, Jennifer?
C'était ça mon histoire d'aujourd'hui.
Oh, c'était un des pires pendant une longue bout, Jennifer.
You, hein?
Ew! C'est tellement... wash, wash, wash.
C'est vraiment wash, wash, wash.
Just, oh. Je peux même pas comme... I can't process this. It's too much.
Je l'ai brisé.
Yes.
Veux-tu savoir mes sources?
Frappe-moi donc avec tes sources.
Wikipedia, History of a Drowning Boy, c'est le livre que Dennis a écrit avec un docteur, mais j'ai juste vraiment... lu le début, genre le sample sur Kindle, parce que c'est pas vrai que je vais lire un...
No!
Bailey Sarian, Wikipedia, je l'ai dit tantôt, Memories of a Murderer, de Nielsen Tape sur Netflix. Fait que sur Netflix, il y a de Nielsen Tape. Puis voilà. Vice, Independent.co, Telegraph.co, Killing for Company par Brian Masters, The Guardian, puis Born to be a Monster, Dennis Nielsen's Murder. Voilà, gang.
Merci, Jennifer.
On vous aime, gang, puis on espère que vous allez passer une belle semaine de décembre. Puis on se dit à la semaine prochaine. Mais faut vraiment que j'aille faire pipi, c'est à mon tour, là.
Pisse donc. Bye-bye, tout le monde.
Love you, bye!